Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La Conversation, Pivot et Urbania. Au programme, La Servante écarlate ou l'émergence de regards féminins dans les fictions audiovisuelles. La pratique sage-femme est un combat féministe et la colère est moi. Bonne écoute.
Lettre à mon trouble. Un texte d'Abigail, paru le 30 septembre 2022 dans le magazine Urbania. Mon cher trouble, toi qui as été caché pendant tant d'années, que j'ai camouflé et qui m'a valu mes pires états. Au début, tu étais là, présent dans ma tête, mais étrangement, nous cohabitions ensemble. Je ressentais ce vide quasi constant, ce manque d'émotion ou d'attachement à l'égard de la vie. J'existe, mais je ne suis pas vraiment là. Ce vide qui m'a valu aussi mes plus grandes ambitions. Je veux être extraordinaire ou je ne veux pas être du tout. Je veux vivre 1000 vies en une, car une existence platonique me terrifie. Je veux que la vie donne un sens à ma personne. Sans cela, je ne suis qu'un déchet bloqué dans une errance infinie, etc. Et puis, une colère est apparue. Cette colère d'être là. Je n'ai pas demandé à vivre, on me l'a imposé, et maintenant, je ne sais plus quoi en faire. Des états d'extrême idéalisation de ma personne. Je suis la meilleure, je peux tout accomplir. Versus des états de dévalorisation. Je suis un monstre, je ne mérite pas de vivre. Ce qu'il y a cependant de commun à ces deux extrêmes, c'est leurs intensités et leur manque de cadre. Les deux me poussent à outrepasser toutes mes limites. Ce qui me conduit toujours à l'effondrement. Je ne sais pas faire autrement que tout donner dans mes liens familiaux, amicaux, sentimentaux et professionnels. Grâce ou à cause de toi, je me suis perfectionné dans l'art du faux-semblant. Ne supportant pas ce sentiment d'être en permanence dysfonctionnelle, hors norme, différente dans le sens péjoratif du terme, inadaptée et de le vivre mal. Mais regarde, les autres y arrivent, mais moi j'y arrive pas. Alors j'ai fini par porter un masque social et professionnel pour être perpétuellement en suradaptation à mon environnement, pour être incluse, valide, mais surtout normale. Ce mot m'obsède. Ce masque, qui remplit à la perfection son rôle, comporte quand même des failles. Il est lourd à porter. Il me bouffe toute mon énergie, et quand il devient trop pesant, alors il craque. C'est là que surgissent des comportements d'autodestruction et d'autosabotage. Une implosion totale d'un verre trop rempli. Je retrouve cette haine, ce miroir qui ne reflète qu'un monstre inadapté à vivre, arrivé là par erreur et qui réclame de repartir. Car oui, cher trouble, tu m'as plus d'une fois poussé à me faire saigner. Je garderai à vie les marques de cette haine sur mes bras. J'aurai toujours ces regards d'interrogation face à mes cicatrices qui témoignent de la fragilité de ma psyché. La vérité, c'est que je me sens asphyxié en permanence. Peur du rejet et de l'abandon, j'ai abandonné avant de l'être. J'ai rejeté les personnes que j'aime le plus, car trop indigne du regard que celles-ci portaient sur moi. Je garde encore aujourd'hui la culpabilité d'avoir rompu des liens avec des personnes avec lesquelles je me sentais tellement connecté, mais aucune thérapie ne répare les liens brisés. Et puis, il y a eu le point de non-retour, les urgences psychiatriques, puis l'hôpital. Pyjama, blouse blanche, médicaments. J'étais au fond du trou, et personne pour m'en sortir. J'ai touché du doigt mon envie de mourir et de disparaître, refusant de m'alimenter, de communiquer, mais surtout d'exister. J'ai fait la grève de la vie, et ça a plutôt bien marché. Pendant un temps, je me suis véritablement senti disparaître, et c'était profondément soulageant. Pourtant, il a bien fallu que je me réveille, que je fasse la paix avec une partie de moi, et c'est là que tu t'es enfin révélé. En face de moi, une psychiatre lance « Vous présentez tous les traits d'une personnalité borderline. Border quoi? Borderline. À ce moment-là, j'étais terrorisé à l'idée d'avoir une pathologie psychiatrique, mais étrangement, cela a enfin donné du sens à toutes mes souffrances, toutes mes incompréhensions, toutes mes rébellions, bref, à toute ma vie. Et figure-toi que depuis que tu as été nommé, j'ai peut-être enfin trouvé ma place. Ma place, c'est là où je me sens le mieux, là où je me sens moi-même, et cette place, c'est là où les autres ne sont pas. C'est parmi celles-eux qu'on qualifie de fous, folles, les marginaux, celles-eux qui n'ont nulle part où aller et qui tracent leur propre chemin, celles-eux qu'on regarde en soirée ou en dîner de famille avec mépris parfois, celles-eux qui sont stigmatisés, celles-eux qui sont finalement en minorité, mais qui sont les plus rebelles, celles-eux qui ne peuvent pas s'adapter, mais qui résistent en prônant leurs différences. L'inverse n'a jamais rien donné. Tout faire pour rentrer dans les cases, cela m'a conduit à l'hôpital psychiatrique. Avoir une pathologie psychique serait donc ma porte de sortie? Quitte à être considérée comme folle aux yeux des autres, pourquoi ne pas vivre au plus intense de ma folie? Quitte à être vu comme « border » dans une société linéaire « line », autant véritablement montrer ce que « borderline » peut être. J'ai trouvé une place là où on ne m'attendait pas, et qu'on le veuille ou non, ça reste une place. Et je suis à la limite de quoi, en réalité? De l'extraordinaire, de l'insoutenable, de la décadence, du gêne, de la morosité, de l'émotivité dérangeante? On m'a collé tellement d'étiquettes, tellement de mots, hypersensible, hyper-émotive, hyper-impulsive, etc. Ils n'ont plus de sens à mes yeux. Je me définis surtout comme une éponge qui absorbe tout ce qui l'entoure et qui, une fois remplie de ce trop-plein émotionnel, n'a pas d'autre option que d'évacuer le flot de tout ce qui me pèse. Rien ne définit mieux qu'une éponge. Une éponge a deux facettes, une rugueuse et une lisse. Reproche-t-on à une éponge d'avoir deux faces? Non. Pourquoi? Parce que les deux ont leurs utilités et leur importance, parce que l'une ne va pas sans l'autre. Mes états fonctionnent de la même façon. Les deux sont nécessaires à mon fonctionnement. Les deux sont radicalement opposés, et pourtant, les deux méritent le même amour et la même écoute. Cher trouble, peu importe ce que tu m'amènes à être ou à ressentir, je ne veux plus lutter. Je veux trouver ma place parmi les personnes qui me ressemblent, et si ma place est nulle part, tant pis, ou tant mieux, mais j'y serai toujours plus heureuse qu'ici. Je n'ai pas de but précis. Ma vie n'a souvent aucun sens, et la vie en général n'a pas de sens. Laissons-la simplement nous offrir ce qu'elle peut. Ce qui m'apaise le plus quand rien ne va, garder en tête que la vie serait terriblement ennuyeuse si tout le monde se ressemblait. La différence apporte de la couleur dans un monde encore souvent très noir ou blanc. Ce texte n'a certainement aucun sens, mais je crois que c'est ça qui me plaît. Merci, cher trouble, de me faire vivre une vie, pas la plus simple, mais certainement des plus intenses. Je t'aime autant que je te déteste, à l'image de ma personne. C'est une vie que je n'ai pas choisie, mais au moins j'en ai une. Un cadeau empoisonné parfois, mais un cadeau quand même. J'apporte tout mon amour aux prétendus fous et aux folles de notre société. Je vous aime, vous admire et peut-être vous comprends. C'était « Lettre à mon trouble », un texte d'Abigail paru le 30 septembre 2022 dans le magazine Urbania.
Une plateforme pour réduire les coûts de notre panier d'épicerie. Un texte de Jessica Dosti paru dans le magazine Bel Âge. Lancé il y a maintenant 5 ans par un jeune Montréalais, la plateforme glouton.app nous accompagne à l'épicerie et nous guide afin, entre autres, de profiter des plus bas prix. Comment? Chaque semaine, les rabais des principaux supermarchés y sont analysés et évalués afin d'identifier les rabais qui en valent vraiment la peine. Ce n'est pas tout. Le site nous propose aussi des menus avantageux créés en fonction des rabais hebdomadaires, une liste d'épiceries numériques, un répertoire de quelque 20 000 recettes provenant de nos sites favoris, des conseils sur la gestion du garde-manger, de même qu'un outil anti-gaspillage nommé Vide-frigo, qui nous permet de trouver des recettes à partir d'une liste d'ingrédients qu'on a déjà sous la main. L'abonnement de base est gratuit. C'était une plateforme pour réduire les coûts de notre panier d'épicerie. Un texte de Jessica Dusty paru dans le magazine Bel Âge. Les 7 meilleurs poissons à manger et 5 qu'il faut éviter. Un texte de Stacy Feintosh paru le 23 février 2021 dans le magazine Sélection du Reader's Digest. Le poisson est bon pour la santé, mais ça dépend de celui qu'on choisit. Voici une liste des pires et des meilleurs poissons à manger. Poisson 101. Le poisson est riche en nutriments bénéfiques pour votre santé. Le plus récent guide alimentaire américain recommande d'en manger au moins 2 ou 3 portions chaque semaine, soit 225 à 340 grammes répartis sur 2 repas. Selon le nouveau guide alimentaire canadien, il est aussi recommandé de consommer au moins 2 portions de poisson par semaine. La plupart d'entre nous ne mangent pas assez de poisson, selon la diététiste nutritionniste Bonnie Todd Dix, créatrice de BetterHandDieting.com. Les Américains mangent environ 100 grammes de poisson en moyenne chaque semaine. C'est approximativement la taille d'un jeu de cartes et loin de ce qui est recommandé. En réalité, seulement 20% des Américains atteignent cet objectif. Si vous voulez intégrer plus de produits de la mer dans votre alimentation, assurez-vous de faire les bons choix. À manger, le saumon sauvage du Pacifique. Le saumon sauvage du Pacifique vous fournira de la vitamine D, du sélénium bénéfique pour votre métabolisme, des acides gras oméga-3, de bons gras qui protègent des maladies du cœur, et de la vitamine B12, excellente pour votre cerveau et votre corps. Assurez-vous de vérifier si votre corps manque de vitamine B12. Les experts disent que le saumon sauvage du Pacifique est votre meilleur choix. Sauvage signifie une moins grande accumulation de mercure, moins d'antibiotiques et d'hormones, et aussi que le poisson peut nager librement, explique la diététiste nutritionniste Monica Oslander-Moreno chez Essence Nutrition. L'espèce sauvage coûte plus cher que celle d'élevage, mais elle en vaut la dépense. À manger, la morue du Pacifique. La morue est un poisson blanc floconneux et à saveur douce comme l'aigle fin et le merlan. Elle est une excellente source de vitamine B12, de protéines, de phosphore et de niacine. Essayez la morue grillée ou cuite au four. Elle s'apprête bien à toutes les sauces et dans tous les types de préparations sans se défaire, déclare Bonnie Todd Dix. Dans une étude de l'European Journal of Clinical Nutrition, les hommes qui avaient mangé de la morue pour dîner avaient mangé 11 % moins au souper que les hommes qui avaient mangé du bœuf le midi. Les chercheurs attribuent les propriétés amaigrissantes de la morue à son gros volume de protéines de grande qualité et à ses acides aminés régulant le métabolisme. À manger, les sardines. Qu'elles soient fraîches ou en boîte, les sardines sont nutritives et peu coûteuses. Vous pouvez les acheter dans la plupart des épiceries, salées, fumées ou en conserve. Celles en conserve contiennent des sardines entières ou en filet dans l'huile, dans l'eau, dans la sauce tomate ou épicée. Si vous ne levez pas le nez sur les arêtes, vos os vous en seront reconnaissants, indique Bonnie Top Dix. Vous irez ainsi chercher environ 40 % de votre apport quotidien en calcium recommandé par portion. Comme la plupart d'entre nous ne consommons pas assez de calcium, les sardines constituent un excellent choix pour de nombreux types de diètes, particulièrement celles des personnes ayant une intolérance aux produits laitiers, ajoute-t-elle. Aussi, les sardines sont naturellement riches en vitamine D, laquelle manque à beaucoup de gens. Parce qu'elles sont en bas de la chaîne alimentaire, elles ont tendance à contenir moins de mercure. Cet élément s'accumule dans les gros poissons qui se régalent d'autres gros poissons. Mettez des sardines dans une salade ou réduisez-les en purée servie sur une tranche de pain avec de la mayonnaise et de la tomate. Si vous n'êtes pas habitué au goût, je recommande de commencer avec des sardines en boîte dans l'huile d'olive plutôt que dans l'eau, déclare la diététiste Jenna Apple, propriétaire de Apple Nutrition Incorporated à Boca Raton, en Floride. Notez cependant qu'une boîte de sardines contient environ 282 mg de sodium, avertit-elle. À manger, le hareng. Les plus petits poissons en bas de la chaîne alimentaire font partie des bons choix. Ils se reproduisent en grand nombre, grandissent rapidement et contiennent moins de contaminants. Le hareng constitue l'une des meilleures sources de vitamine D, une vitamine qui protège les os, prévient les cancers du sein et de la prostate et renforce la santé du cœur. Le hareng en contient environ 7 microgrammes par portion de 85 grammes. Le hareng est un poisson gras particulièrement lorsqu'il est fumé. Par contre, cela signifie aussi qu'il contient beaucoup de sodium et qu'il doit être mangé avec modération. Traditionnellement, le hareng sort est servi dans une sauce à la crème sûre, de dire la diététiste Alix Turoff. Pour un plat plus léger, vous pouvez utiliser du yogourt grec au lieu de la crème sûre et du stevia pour remplacer le sucre. On mélange souvent le hareng sort avec du vinaigre et de l'oignon cru haché. Nous continuons avec la lecture de la liste des 7 meilleurs poissons à manger et 5 qu'il faut éviter. Un texte de Stacy Feintosh, paru le 23 février 2021 dans le magazine Sélection du Reader's Digest. À éviter, le requin. Comme les populations de ces magnifiques prédateurs sont en déclin, il vaut mieux éviter d'en consommer. Aussi, étant en haut de la chaîne alimentaire, les requins mangent souvent du poisson contaminé au mercure, ce qui fait augmenter leur niveau de contamination. Le mercure est une neurotoxine qui peut endommager le système nerveux et perturber le fonctionnement normal du cerveau, ce qui rend la chair du requin particulièrement dangereuse pour les jeunes enfants et les femmes enceintes. Plus le poisson est haut dans la chaîne alimentaire, plus il est susceptible de contenir du mercure. À éviter, le marlin. Les marlins sont reconnus pour leurs nageoires pointues et leurs longs rostres effilés. Leur population est en déclin parce qu'ils sont souvent pris ou tués par des pêcheurs en quête d'autres espèces. Parce que ces poissons impressionnants sont au sommet de la chaîne alimentaire, ils peuvent également contenir beaucoup de toxines. Le marlin présente souvent des taux nocifs de mercure et d'autres toxines qui peuvent être dangereuses pour les humains, dit Jenna Apple. Évitez tous les marlins rayés et la plupart des marlins bleus, à l'exception de ceux pêchés à Hawaï. Ou encore, évitez systématiquement le marlin. Le flétan ou l'esturgeon sont de bonnes solutions de rechange, précise Georgette Schwartz, certifié en nutrition holistique et pratiquant chez Integrative Acupuncture à Delray Beach, en Floride. À éviter les crevettes importées. Les crevettes importées contiennent tout un éventail de contaminants, notamment la bactérie E. coli, la salmonelle, la listeria, des antibiotiques et des résidus chimiques. Consommez plutôt des crevettes qui proviennent du marché intérieur. Aussi, privilégiez les crevettes d'élevage qui sont sans produits chimiques ni antibiotiques. Par exemple, celles élevées dans de grands bassins extérieurs qui ressemblent à leur habitat naturel ou dans des réservoirs qui filtrent et recyclent l'eau et les déchets. Lorsque vous achetez des crevettes crues, explique Jenna Apple, elles devraient avoir une texture ferme. La coquille devrait être translucide, d'une teinte vert grisâtre, rose ou rosée. Évitez celles qui ont des taches noires ou les côtés noircis. Les crevettes cuites devraient être fermes et blanches, avec une teinte légèrement rouge ou rose, ajoute-t-elle. Qu'elles soient crues ou cuites, elles devraient dégager une légère odeur de sel et non une odeur de poisson ou d'ammoniac. Comptant parmi les protéines venant des produits de la mer les plus polyvalentes, les crevettes peuvent être utilisées dans presque tous les plats de la cuisine internationale, déclare Bonnie Todd Dix. Et qu'elles soient de moyenne ou de grande taille, les crevettes sont très bonnes pour la santé. Pour 85 grammes de crevettes, vous obtiendrez 20 grammes de protéines, ajoute-t-elle. Une portion remplit également vos besoins quotidiens en sélénium et vous fournit de la vitamine B12, du cuivre, de la choline, de l'iode et du phosphore. À manger, les huîtres. Ces petits bijoux sont remplis de zinc et peuvent vous aider à contrôler votre poids. Les recherches démontrent que les personnes obèses ont tendance à présenter des taux de zinc plus bas que les personnes minces. Les huîtres sont aussi riches en fer et en sélénium. Une portion peut contenir entre 500 et 1000 mg d'oméga-3 et plus de 40% des valeurs quotidiennes recommandées de fer, selon les instituts américains de la santé. Les huîtres sont des filtreurs. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin d'être nourries pour survivre. Elles s'auto-nourrissent en nettoyant les eaux qui les entourent. Aussi délicieuses que les huîtres crues puissent être, attention! Elles peuvent contenir des bactéries causant des maladies graves. Les personnes souffrant de diabète, de cancer, d'une maladie du foie ou ayant un système immunitaire affaibli devraient éviter de manger des huîtres crues. Les huîtres possèdent un goût saumâtre et salé de mer qui ne plaît pas nécessairement à tout le monde, déclare Bonnie Todd Dix. Les amateurs, eux, aiment manger ce délicieux fruit de mer frit, cuit ou frais sorti de sa coquille. À manger, la truite arc-en-ciel d'élevage. Presque toutes les truites de votre supermarché local sont des truites arc-en-ciel d'élevage. Aux États-Unis, l'élevage est strictement réglementé et les produits chimiques que les producteurs peuvent utiliser sont limités. Comme les exploitations piscicoles ont des systèmes en milieu fermé, les poissons sont davantage protégés des contaminants et présentent des taux de mercure bas. Ce poisson goûteux et abordable est riche en acide gras oméga-3 et en vitamine B. Il possède une texture tendre et un goût que les enfants sont susceptibles d'apprécier. La truite s'apprête bien avec du citron et des fines herbes comme l'aneth, le thym ou le persil, d'affirmé Alex Turoff. Elle peut être servie grillée ou rôtie en toute simplicité. À manger, les moules. Riches en fer, en sélénium et en vitamine B12, les moules sont aussi une bonne source de zinc, pauvres en calories et en gras, mais riches en oméga-3. Le plus gros avantage des moules, à part leur valeur nutritive, est qu'elles sont faciles à cuisiner et que vous pouvez les assaisonner de mille et une façons, de dire Jenna Apple. Si vous cuisinez des moules à la maison, servez-les accompagnés de pain frais de blé entier pour tremper, qui vous fournira des vitamines B additionnelles, des minéraux comme le fer, le magnésium et le sélénium, ainsi que des fibres alimentaires. Georgette Schwartz est d'accord pour dire que c'est un choix santé. Faites-les cuire à la vapeur avec du beurre, de l'ail, du vin blanc et du sel de mer, dit-elle. C'est facile et ça goûte merveilleusement bon. Lorsque vous mangez au restaurant, les moules sont habituellement une bonne option, affirme Alix Turoff. Elle explique que les restaurateurs préparent souvent les moules avec de l'huile d'olive ou du beurre, du vin blanc, des échalotes, de l'ail, du citron, du persil, du sel et du poivre, et parfois de la crème. Il y a toutefois un bémol, dit-elle. Comme les moules sont parfois servis en entrée avec des frites, commandez plutôt la portion hors d'œuvre et faites remplacer les frites par un légume ou une patate au four. À éviter, le caviar sauvage. Le caviar vient de l'esturgeon, un poisson à croissance lente, ce qui fragilise la pêche de cette espèce. Si vous cherchez quelque chose à servir en hors d'œuvre à la place du caviar, optez plutôt pour le saumon fumé avec du fromage de chèvre et des tranches de concombre, conclut Alix Turoff. À éviter, l'anguille. La plupart des anguilles d'eau douce proviennent d'exploitations qui polluent et la population d'anguilles sauvages, elle, décline. En outre, les anguilles peuvent être contaminées au mercure. Dommage pour les amateurs de sushi. Essayez plutôt le homard, un régal tout aussi riche. Si vous aimez le goût de l'anguille, vous pouvez aussi essayer le calmar de l'Atlantique et du Pacifique. La morue charbonnière et l'aigle fin peuvent aussi être de bons substituts, selon Georgette Schwartz. C'était les 7 meilleurs poissons à manger et 5 qu'il faut éviter. Un texte de Stacy Feintosh paru le 23 février 2021 dans le magazine Sélection du Reader's Digest.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à André Lebeau, Lynn Lamarche et Luc Mercure à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.